Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, ce contrat historique pour l'armée française, la menace d'un nouveau serrage de vis qui se précise sur le front du Covid. Et puis Cédric Jubilard est à nouveau chez les juges ce midi.
Et juste après le journal, nos deux sujets du jour, la crise sanitaire, est-ce qu'il y aura un nouveau tour de vis? Et puis le second tour chez les Républicains, Éric Ciotti peut-il l'emporter?
Notre question du jour, justement, sur RTL.fr, peut-il ou non gagner? Vous votez depuis ce matin. La météo du jour, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Une nouvelle perturbation, et la bonne nouvelle, c'est qu'on va tous y passer.
Pratiquement tous, ça va rester à peu près bien dégagé entre les Alpes et la Méditerranée, mais il y aura pas mal de vent. Mistral et Tramontane vont souffler modérément, mais quand même toute la journée. Pour les autres, donc cette dégradation qui est arrivée par le nord-ouest, qui sera précédée d'un petit peu de neige, même en plaine, entre la Lorraine, la Bourgogne et l'Auvergne, dans début d'après-midi. Ensuite, il neigera bien sûr en montagne et à l'arrière, on va garder un ciel très chargé, des pluies assez fréquentes et des températures qui volent toujours pas très haut. 2 degrés à Strasbourg et Besançon cet après-midi, 4 à Bourges et Grenoble, 5 à Paris, 8 à Toulouse, 11 à Toulon et 13 degrés pour Rennes et La Rochelle.
Merci beaucoup Valérie. Programme complet du week-end, ce sera à 13h. À tout à l'heure.
RTL Midi.
Et on commence donc avec cette bonne nouvelle, un contrat historique pour l'armée française. Les Émirats commandent 80 Rafales. Le contrat en question a été signé ce matin par Emmanuel Macron lors de son déplacement sur place, Nerissa Imani.
C'est le plus gros contrat d'armement jamais signé par la France. 80 Rafales et 12 hélicoptères militaires d'assaut pour un montant de 16 milliards d'euros. Un contrat historique dont s'est félicité le président français ici à Dubaï. Il a été reçu dans les dorures du pavillon d'honneur de l'exposition universelle par l'émir d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed. Les Émirats deviennent le premier pays étranger utilisateur de ces Rafales. 80 avions de chasse dernière génération qui vont équiper l'armée de l'air du pays. Ils remplaceront les 60 Mirage 2000 déjà en service depuis plus de 20 ans. C'est donc la promesse de milliers d'emplois en France pour la prochaine décennie, selon le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier, même si l'on ne connaît pas encore la date de livraison de ces avions.
Nerissa Imani, envoyée spéciale d'RTL à Abu Dhabi. Emmanuel Macron qui présidera lundi un nouveau conseil de défense sanitaire. À la clé, sans doute, de nouvelles restrictions, a prévenu ce matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
C'est une courbe vertigineuse. Et donc un conseil de défense se réunit dans ce contexte lundi. Je n'ai pas l'habitude de commenter les conseils de défense avant qu'ils se tiennent. Moi, je veux insister sur le fait que nous, notre souhait, c'est de continuer à avancer, encore une fois, avec un objectif pour les Français, qui nous le disent quand on se déplace, quand on échange avec eux, pouvoir passer Noël ensemble. C'est ça notre cap, c'est ça notre boussole.
Gabriel Attal ce matin, Jean Castex hier à Angoulême. C'est vrai que... On a un peu peur, alors à quoi faut-il s'attendre concrètement? On sera avec Odile Pouget à 12h40.
Du côté des Républicains, début du deuxième tour du Congrès, le vote en ligne a ouvert ce matin à 8h et les militants LR ont donc jusqu'à demain 14h pour choisir entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Une certitude entre les deux, il y en a une qu'Emmanuel Macron redoute le plus, c'est la présidente de la région Île-de-France.
Oui, en tout cas la Macronie a déjà répondu à la question RTL du jour. Pour eux, le match est plié, Ciotti va être battu, balayé. Et donc, on se concentre déjà sur Valérie Pécresse et sur la suite. Pourquoi serait-elle une menace pour le président? Je vais vous lister quelques arguments des amis d'Emmanuel Macron. C'est une femme, et nous, on nous répète qu'on est une bande de mecs, dit l'un d'entre eux. Elle plaît autant à la droite catholique versaillaise qu'aux électeurs de centre-droit, ajoute un autre. Et puis, elle a un beau CV, ancienne ministre, et elle dirige la plus grosse région de France. Voilà pour la colonne des plus. Mais attention, il y en a d'autres qui nuancent beaucoup le niveau de la menace Pécresse. Elle n'est pas sympathique, pas à l'aise à l'oral, tranche un ministre, un autre l'attaque, mais qu'elle nous dise où elle va supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. Un dernier lance le match avec un compliment qui n'en est pas un. Elle est d'accord avec nous sur à peu près tout. Elle ferait une très bonne première ministre d'Emmanuel Macron.
William Galibert du service politique de RTL, pas sûr que ça lui plaise.
Valérie Pécresse qui a reçu dès hier le soutien des perdants de ce congrès. Xavier Bertrand, Michel Barnier, Philippe Juvin. Le match est-il pour autant plié? Éric Ciotti peut-il malgré tout l'emporter? On sera à 12h50 avec le politologue Pascal Perrineau.
Éric Zemmour lui tiendra son premier meeting de candidat dimanche à Villepinte. Enfin, en théorie, car d'ici là, Stéphane Troussel compte bien le faire interdire, ce meeting. Le président du département de Seine-Saint-Denis a même lancé une pétition.
J'ai lancé cette pétition pour dénoncer une forme d'hypocrisie et demander des explications au groupe Viparis, qui est propriétaire du parc des expositions et qui, ce même groupe, qui revendique d'avoir signé en 2009 une charte de la diversité en entreprise qui, justement, dit qu'elle veut agir pour la diversité culturelle, ethnique, sociale, promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes et qui, en même temps, s'apprête à accueillir à bras ouverts un candidat multi-condamné pour incitation à la haine raciale. Et donc je dis, ni la Seine-Saint-Denis, ni la diversité ne peuvent servir de faire-valoir à ceux qui attaquent la République, qui haïssent la France et qui sapent ses principes au quotidien et qui par ailleurs traînent dans la boue quasiment tous les jours sur les plateaux, dans son livre, la Seine-Saint-Denis et ses habitants.
Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis, joint pour RTL par Mourad Djabari. 15 jours après le lancement de MeToo Politique, un premier bilan. Les initiatrices rassemblées ce matin notent clairement un mouvement, notamment depuis la diffusion des accusations contre Nicolas Hulot et dans l'émission Envoyé spécial. Écoutez Alice Coffin.
Un premier bilan du MeToo Politique à la faveur de la diffusion de l'enquête sur Nicolas Hulot, c'est qu'on a beaucoup de témoignages. C'est-à-dire que tous les jours, on a des femmes qui nous contactent pour nous alerter sur un viol dont elles ont été la cible, d'un homme politique, des agressions. Donc on en est là, c'est-à-dire à la fois avec une immense colère et une immense mobilisation du côté de féministes et de beaucoup de femmes politiques. On a eu des témoignages ce matin d'Aurélie Filippetti, de Nelly Garnier, élue Les Républicains. Et puis en face, le grand rien, l'ignorance, quand c'est pas limite les insultes ou en tout cas se faire traiter quand même d'inquisitrice par le chef de l'État. Faites votre part du travail, ça ne peut pas être que les femmes qui témoignent et qui en payent les conséquences.
Voilà, premier bilan de ce MeToo politique avec Alice Coffin. Elle était au micro RTL d'Alice Moreno.
Cédric Jubilard, à nouveau chez les juges.
Deuxième audition depuis le mois de juin et son incarcération après sa mise en examen pour le meurtre de son épouse Delphine. Patrick Tégéro, vous êtes au palais de justice de Toulouse pour RTL. L'objectif pour les magistrats, c'est de mettre la pression sur celui qui reste le suspect numéro un dans cette affaire.
Eh bien, l'interrogatoire dure désormais depuis plus de 2 heures, mais les questions sont nombreuses et complexes. Les faits et gestes de Cédric sont examinés à la minute près. Et puis, il y a des vérités à confronter, comme celle de Cédric, qui dit s'être endormi vers 22h30, et celle du petit Louis, 6 ans, qui indique avoir entendu ses parents parler très fort bien plus tard. Mais pour maître Alexandre Martin, défenseur de Cédric Jubilard, ce n'est pas déterminant.
Vous savez, les enfants dans les grosses affaires criminelles, ça nous renvoie quand même à des exemples terribles. Si l'accusation en est à vouloir faire tenir la culpabilité de Cédric Jubilard sur la parole d'un enfant de 6 ans entendu un an après, c'est que vraiment, vraiment, ils n'ont rien d'autre.
Toute cette journée, Cédric Jubilard sera donc sous le feu des questions des deux juges d'instruction.
Et dans le même temps, Patrick, on découvre des éléments qui interpellent autour cette fois de la compagne de l'amant de Delphine Jubilard les jours qui ont précédé la disparition de la jeune femme le 16 décembre 2020.
Oui, figurez-vous que ce 15 décembre, la compagne de l'amant de Delphine Jubilard découvre son existence et n'en paraît pas très troublée. Elle la contacte et échange une vingtaine de SMS pour finir par convenir d'en rester là et d'attendre le départ de la compagne pour la réunion avant de s'installer avec son amant. Mais la compagne a aussi passé le 15 et 16 décembre plus de 145 appels à un mystérieux interlocuteur qui n'a toujours pas été identifié. Et pour la défense de Cédric Jubilard, ce mystère mérite d'être éclairci.
Patrick Tégéro au palais de justice de Toulouse pour RTL, audition donc qui se poursuit pour Cédric Jubilard. Le début ce soir des championnats du monde de handball féminin, les Bleus affrontent l'Angola, ce sera à 18h, des Françaises forcément attendues au tournant, trois mois après leur titre olympique à Tokyo. Et puis le décompte se poursuit, plus que 22 dodo avant Noël. Bah oui, ça c'est mon décompte,
avez...
j'adore.
Non, vous avez un enfant
mais
encore
non, mais j'aime
jeune
Noël.
Chez vous.
Bon, et
oui,
voilà,
mais les dodos.
Oui, les dodos, bah oui, c'est important. Voilà un cadeau en tout cas que le Père Noël risque de retrouver sur bien des listes, les pop. Vous savez ce que c'est, Pascal? Les pop,
non.
Les petites figurines avec une grosse tête. La folie pop, justement, c'est un reportage signé Hortense Crépin. Écoutez.
Ariel, Anna,
des Harry Potter, des Dragon Ball Z,
Stitch.
Autant de personnages cultes déclinés en pop, ces figurines de quelques centimètres au physique un peu particulier que nous décrit Yacine.
Les têtes qui bougent, qui tournent, ils ont une tête plus grosse que le corps.
Avec sa grande sœur, ils sont devenus fans de pop et ce sont peut-être bien leurs parents qui ont initié la collection.
En fait, c'est maman qui regarde Harry Potter et papa qui aime bien Dragon Ball Z, donc du coup, bah, ça répercute sur les enfants.
C'est très facile à trouver, il y en a partout, même dans
dans les grandes surfaces, il y en a partout.
Cela fait 10 ans que le phénomène est arrivé en France, mais il s'est accéléré ces dernières années. Pierre-Louis, le responsable du magasin, en a commandé plusieurs centaines en prévision de Noël.
On pensait que ça allait être éphémère et finalement, ça continue de perdurer, ça se vend toujours autant, voire même plus qu'avant.
Pendant les fêtes, notamment, c'est un de vos plus gros succès.
Ah mais clairement, c'est pour ça qu'on a un mur si grand de pop avec tant de choix, c'est parce que c'est vraiment un de nos plus gros succès.
Et si vous souhaitez déposer des pop au pied du sapin le mois prochain, les premières figurines se vendent 15 euros.
Reportage signé Hortense Crépin. On pourrait faire des pop à votre effigie, Pascal.
Bah écoutez, je sais pas si ça se vendrait. En tout cas,
on pourrait tester.
La crise sanitaire, dans un instant.
Oh, vous, tout de suite, vous... j'allais dire, pas réchauffer l'ambiance, l'inverse. Vous refroidissez l'ambiance.
Il est possible qu'on la refroidisse sérieusement, figurez-vous, lundi, avec le nouveau conseil de défense. Parce que c'est vrai que j'ai entendu Jean Castex hier à Angoulême, j'ai entendu ce matin M. Attal, et j'ai peur aux nouvelles restrictions. Donc Odile Pouget est là dans notre studio. Odile, j'espère que vous allez être rassurante parce que c'est la veille du week-end. Et à 12h50, on aura un débat sur Éric Ciotti. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements.
Ça, c'était il y a une semaine, le jeudi 25 novembre. Olivier Véran l'assurait, pas de nouvelles restrictions en vue. 7 jours plus tard, changement de ton.
Le président de la République a décidé de convoquer un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale sur la crise sanitaire, pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires dès lundi, en fin de matinée.
Peut-être des mesures complémentaires, laissait entendre hier soir Jean Castex. Rien n'est encore tranché, mais le nombre de nouvelles contaminations flambe un peu plus chaque jour. Plus de 48 000 nouveaux cas confirmés hier et un taux d'incidence qui dépasse les 400 dans 26 départements. Alors faut-il à nouveau serrer la vis? Et si oui, comment? C'est le premier débat d'RTL Midi. On en parle avec vous, Odile Pouget. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste santé ici à RTL. D'abord, si on ne change rien... Odile, à quoi faut-il s'attendre pour les prochaines semaines?
Alors, si rien ne change, eh bien, l'épidémie va continuer de flamber avec un pic très haut que l'on pourrait atteindre seulement à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire dans 2 mois encore. Mais dès la mi-décembre, c'est-à-dire d'ici une dizaine de jours, on pourrait atteindre 3000 patients Covid en réanimation, avec tout ce que ça comporte, tout ce que ça comporte sur la pression de l'hôpital, sur un report éventuel d'intervention. Et on serait bien au-delà des chiffres de la quatrième vague qui n'avait pas dépassé les 2000 malades en soins intensifs au pic. Ce sont les dernières modélisations de l'Institut Pasteur qui met toutefois en avant 2 paramètres qui pourraient changer la donne. Il y a bien sûr la vaccination de rappel. Il faudrait être à 600 000 rappels par jour. On est à 500 000 aujourd'hui. Et puis les gestes barrières.
Bon, mercredi soir, ici même sur RTL, le professeur Fontanet, membre du conseil scientifique, expliquait qu'il suffisait de réduire nos contacts de 20%. Écoutez.
Si on diminue, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, de 20% nos contacts, on arrivera à juguler cette cinquième vague et à l'amener à des niveaux beaucoup plus acceptables. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un couvre-feu, c'est 50%. Un confinement, c'est 80% de diminution des contacts. 20%, c'est ajuster un peu les curseurs par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui.
Ajuster les curseurs, justement, ça veut dire quoi? Parce qu'on n'imagine pas que les restaurants soient fermés. On n'imagine pas un couvre-feu. En revanche, on peut imaginer peut-être le télétravail.
Oui, alors le télétravail pour les parents, d'accord, bien sûr. Mais il y a aussi d'abord la piste des vacances anticipées pour les élèves. La piste des vacances anticipées.
Ça va faire plaisir à tout le monde,
pour Noël. On sait, c'est une piste que n'exclut pas, n'a pas exclu ce matin le ministre de la Santé. On sait, Pascal, que c'est chez les 6-10 ans qui ne sont pas vaccinés, que les contaminations flambent avec un taux d'incidence de plus de 748 pour 100 000, c'est plus du double de celui de la population générale. Alors ça éviterait bien sûr que les enfants se contaminent entre eux et rapportent le virus à la maison, mais encore faut-il pour cela que les parents puissent s'organiser
et être en
télétravail, absolument. Alors rappelez-vous, les vacances anticipées, on a déjà connu ça à Pâques l'an dernier. Les élèves du primaire étaient sortis par exemple 3 jours à l'avance, mais le contact contexte était absolument tout autre. À l'époque, on avait un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Les magasins non essentiels étaient fermés. On ne pouvait pas se déplacer au-delà d'un rayon de 10 km.
Bon, et les jauges, ce ne serait pas une solution ?
Alors, la réduction de ces capacités d'accueil, par exemple, des stades, des restaurants, des discothèques, des centres commerciaux, autres établissements recevant du public. Alors, c'est vrai que ça fait partie de l'éventail des options de freinage, même s'il est très difficile de mesurer précisément l'effet de ces jauges en termes de réduction des risques. Il faut savoir par ailleurs qu'il y a des risques qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne présentent pas un gros risque de contamination. Mmh. C'est les salles de théâtre, les salles de cinéma, par exemple. En revanche, les bars, les discothèques, les restaurants, aujourd'hui en hiver, où les gens se massent dans des espaces fermés sans aucun respect des gestes barrières, ben ce sont des endroits où on se contamine le plus. C'est la dernière étude de l'Institut Pasteur qui le dit.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les non-vaccinés. En Autriche, ils sont confinés. En Allemagne, ils seront confinés. Est-ce qu'on imagine une mesure de ce type en France lundi ?
Non. Je ne pense pas. Je m'avance, mais non, je ne pense
mais
pas.
Mais en revanche, l'idée du gouvernement, c'est toujours de maintenir la pression et de faire en sorte que les gens aillent se vacciner.
Bah bien sûr, évidemment. Bien sûr, la campagne de rappel, là, en effet, bat son plein. On va augmenter les centres de vaccination, les possibilités. On va augmenter. Il n'y a pas de problème de dose, de commande de dose, tout ça. Donc, franchement, le gouvernement, là, insiste sur la campagne de rappel, évidemment. Et puis les non-vaccinés. Qui n'ont toujours fait aucune dose.
Encore 6 millions de
encore
personnes.
Encore 6 millions de personnes. Alors, chaque jour, on a 30, 40 000 primo-injections. Ça veut dire que, quand même.
Ça bouge.
Ça bouge un tout
mais
petit peu.
Mais 500 000, vous avez dit, par jour en ce moment.
Oui,
c'est pas
absolument.
Mal, hein, quand même. Ça veut dire que ça fonctionne bien.
La troisième dose.
Mais 500 000 personnes qui sont vaccinées par jour en France, c'est très important. Ça fonctionne.
Et le curseur, ça peut aussi être quand même appliqué tout simplement ce qui existe. Ce qu'il faut le reconnaître, Odile, n'est pas toujours le cas.
Ben non, alors là, c'est la responsabilité de chacun. Franchement, notamment le port du masque, partout, tout le temps, à l'intérieur des lieux publics, porté correctement. On sait qu'il réduit de moitié le taux d'incidence. C'est quand même pas rien. Et puis la distanciation physique, on a complètement oublié cette distance dans les files d'attente, notamment, enfin il me semble. Et puis l'aération régulière des locaux, des logements, des lieux clos en tout genre. Ça peut aussi freiner l'épidémie.
Eh ben merci Odile Pouget. Oui. Je trouve que vous êtes un peu plus rassurante que Jean Castex et que Gabriel Attal, si vous me permettez. Parce que quand je les avais écoutés hier et ce matin, j'avais un peu peur.
On verra.
Vous...
Mais attendez.
Bah oui, on verra, mais vous mettez quand même un
d'ici
poil.
D'ici là, il y a le week-end, on ne sait jamais.
Oui,
hein.
Bien sûr, mais... On va attendre. On va parler d'Éric Ciotti. Peut-il l'emporter ? C'est une question un peu provocatrice parce qu'a priori, il a tout le monde contre lui. Tout le monde, peut-être pas les électeurs. Je rappelle que c'est eux qui votent. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
La politique, ce n'est pas une affaire de mathématiques. Je suis le seul à pouvoir rassembler tout le peuple de droite. Voilà, ceux qui nous ont quittés pour Marine Le Pen, voire pour Emmanuel Macron, ceux qui pourraient être tentés par Éric Zemmour.
C'était hier soir sur RTL, Éric Ciotti convaincu qu'il pouvait remporter le deuxième tour du Congrès des Républicains et ce malgré les ralliements à Valérie Pécresse. Alors justement, peut-il créer à nouveau la surprise, être le candidat des Républicains à cette présidentielle ? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. La politique, dit Éric Ciotti, ce n'est pas une affaire de mathématiques. Il a raison.
Ça n'est pas à 100% une affaire de mathématiques, mais les chiffres comptent. Or, les électeurs, les 110 000 adhérents LR qui ont voté, ils ont voté, ils ont accordé en effet un peu plus de 25% des suffrages à Éric Ciotti. C'est une belle performance, mais faut pas oublier que Valérie Pécresse est roue dans roue avec lui, avec 25, que Michel Barnier a réuni 24% et que Xavier Bertrand en a réuni 22-23. Donc les quatre premiers sont véritablement dans un mouchoir de poche. Ce qui veut dire aussi, si on fait de la mathématique, que 75%, 74% des adhérents LR n'ont pas voté pour Éric Ciotti. Donc le rapport de force au premier tour n'est pas en faveur dans la dynamique du second tour pour Éric Ciotti. Cependant, il pourra accroître sa pelote. Mais il faudra passer de 25 à 50%. Or, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Philippe Juvin se sont ralliés extrêmement rapidement et clairement à Valérie Pécresse.
Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que Michel Barnier est peut-être sur le plan des idées plus proche d'Éric Ciotti, par exemple, que Xavier Bertrand. Donc, même si Michel Barnier dit ou donne consigne de voter pour Éric Ciotti, il est possible que ses électeurs préfèrent Ciotti à Pécresse.
Oui, mais on est dans la perspective d'un second tour. C'est un second tour de pour les Républicains dans cette primaire fermée. Et les gens maintenant se disent, on aura dimanche un candidat de la droite classique et du centre. Or, au principe de plaisir va se substituer peu à peu le principe de réalité. C'est-à-dire que nombre d'adhérents des LR, quel que soit leur choix, leur tropisme, leur goût, se dira, mais quel est celui ou celle qui est le plus capable de s'imposer dans un second tour, si on va jusque-là, dans un second tour face à Emmanuel Macron. Et là, de manière claire, Valérie Pécresse est aujourd'hui nettement mieux placé que Éric Ciotti. Les militants, certes, ils ont des passions, ils ont des choix, ils ont des affects, mais aussi ils sont dans la réalité politique avec des rapports de force, on le voit bien depuis des mois et des mois, qui ne sont pas les mêmes pour Éric Ciotti, qui reste cantonné à la droite de la droite, alors que Valérie Pécresse a un spectre plus large. Elle a montré à la fois dans la primaire qu'elle pouvait être une femme d'autorité, ferme sur les dossiers d'immigration et d'insécurité, mais qu'elle pouvait, sur le terrain de la crédibilité économique, parler aux électeurs dont on ne parle pas assez, c'est-à-dire les électeurs de droite qui sont partis et qui sont encore aujourd'hui derrière Emmanuel Macron.
Pascal Perrineau, on a entendu beaucoup d'analyses après ces résultats d'hier. La surprise est Éric Ciotti. Est-ce que vous diriez que les militants LR sont plus à droite qu'ils n'ont pu l'être il y a 5 ans, 10 ans, au temps de François Fillon, de Nicolas Sarkozy?
Oh, vous savez déjà, quand François Fillon avait été choisi lors de la primaire ouverte de 2016, on avait bien vu qu'il y avait une droite de la France des régions, ce qu'on pouvait appeler une droite profonde qui s'était exprimée, qui avait choisi plutôt François Fillon que Nicolas Sarkozy ou bien sûr Alain Juppé.
En fait, les électeurs sont plus à droite que les dirigeants et c'est peut-être pour ça que les électeurs sont partis chez Éric Zemmour et chez Marine Le Pen parce qu'ils retrouvaient pas véritablement leur formation de droite telle qu'elle était dans les années 80 ou 90, le fameux RPR.
Oui, mais là, avec, si vous voulez, les quatre candidats, même si, bien sûr, Philippe Juvin est présent, il a fait tout de même 3%, donc ses électeurs compteront. Mais pour les autres candidats, on a bien vu que la tonalité était une tonalité très à droite et qu'il s'efforçait de parler à ses électeurs
Et Valérie Pécresse, dès hier, a été assez sur ces points. Elle a donné des gages à un public de droite.
Bien sûr. Mais bien sûr, une élection présidentielle, c'est deux tours. Alors au premier tour, faut parler aux convaincus. Au second tour, par définition, faut parler à d'autres électeurs. C'est pour ça, vous savez qu'il y a une vieille maxime pour l'élection présidentielle qui dit souvent l'élection présidentielle au deuxième tour se gagne au centre. Donc quel est le ou la candidate le plus capable de rassembler tout ce beau monde qui vous permet d'arriver à plus de 50%? Je crois qu'aujourd'hui, en termes de perception, Valérie Pécresse a un avantage par rapport à Éric Ciotti, même si Éric Ciotti connaîtra entre les deux tours une dynamique.
Merci Pascal Perrineau. Je résume votre pensée. Éric Ciotti n'a aucune chance d'être élu. n'a aucune chance d'être élu à la tête des Républicains pour les représenter. Je caricature un peu.
Légèrement.
Mais vous n'y croyez pas beaucoup, si j'ai bien compris.
Non, c'est pas le scénario le plus probable.
Voilà, je simplifie à l'extrême. Il est 12h58, on va marquer une pause. Ça sera le flash d'Amandine dans une seconde. Et puis on parlera avec les auditeurs. On demandera aux auditeurs s'ils sont sur cette ligne-là. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, une question qu'on va poser aux auditeurs. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Pronostic.
Valérie Pécresse.
Eh bien, vous allez expliquer tout cela dans une seconde. Le rappel des titres avec Amandine.
Et elle a une seconde contrat historique pour l'armée française. Les Émirats achètent 80 avions combat Rafale pour un montant de 16 milliards d'euros. Contrat signé ce matin en marge du déplacement d'Emmanuel Macron sur place. Emmanuel Macron qui présidera lundi un nouveau conseil de défense sanitaire et à la clé sans doute de nouvelles restrictions. C'est ce qu'a indiqué ce matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Et puis vous le disiez Pascal, du côté des Républicains, début donc du deuxième tour du Congrès. Le vote en ligne a ouvert ce matin à 8h. Les militants LR ont jusqu'à demain, 14h, pour choisir entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Résultat attendu dans la foulée, comme hier. Notre météo, pardon, avec vous Valérie Quintin. Honte à moi. Week-end bien hivernal, c'est ça?
Tout y sera, même le soleil quand même, figurez-vous. Ah. Demain, on va retrouver la dégradation d'aujourd'hui dans l'Est et dans le Sud avec une limite plus neige à assez basse altitude, aux alentours de 1200 mètres. On pourrait, dans le courant de la matinée, avoir un peu de neige en pleine dans l'Est et dans le Massif central. À l'arrière, un régime d'averses, de grains orageux, parfois un petit peu de grésil entre le nord et le nord-ouest avec des vents qui vont se renforcer également aussi bien sur les côtes que dans les terres. Les températures demain matin iront de moins 2 degrés dans les vallées des Alpes à 10 degrés à Biarritz. Dans l'après-midi, fourchette de 6 à 17 degrés, donc ça remonte un petit peu demain pour mieux baisser pour la journée de dimanche, avec un ciel très chargé partout, une limite plus neige aux alentours de 400-500 mètres seulement sur les reliefs de l'Est du Massif central, à 700 mètres sur les Pyrénées. Côté soleil, quelques éclaircies près de la Méditerranée, mais également le long de la façade ouest. Température donc en baisse, 7 degrés de moyenne dimanche pour la moitié nord, 9 maximum pour la moitié sud.
Merci beaucoup Valérie.
Merci Valérie, merci Amandine. On vous retrouve ce soir sans
doute, à 19h15 avec les correspondants de la presse étrangère. Ils ont plein de choses à dire, vous le verrez, sur ce qui se passe du côté des Républicains notamment. Et puis on parlera aussi du chic français. Est-ce que c'est toujours vrai?
Oui. Vous l'incarnez, cher ami.
Ça c'est très gentil, mais bon, vous verrez ce qu'ils en disent, ils ne sont pas tout à fait d'accord.
Le chic français, 13h03.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
La première place d'Éric Ciotti hier à l'élection des Républicains démontre que les questions d'autorité, de l'état de sécurité, d'immigration, d'identité sont au cœur des préoccupations de ceux précisément qui votent pour les Républicains. Nous sommes avec Gérard qui nous dit que Valérie Pécresse, selon lui, est aujourd'hui favorite pour le deuxième tour. Vous-même, vous êtes un électeur des Républicains ?
Un ancien électeur des Républicains, à l'époque de Sarko.
Et pourquoi ? Et aujourd'hui, vous ne votez plus pour les Républicains ?
Non, je vous avais eu la dernière fois. Aujourd'hui, j'avais jamais, jusqu'à présent, j'allais voter, je m'étais dit, allez Marine, on va essayer.
Marine
Le Pen. Et puis, nous avons notre Zemmour national qui est arrivé en bande de la Seine. Donc
maintenant, vous êtes Zemmour.
Ah oui, bien sûr.
Vous changez souvent d'adresse, vous ?
Pas du tout, je suis à droite. Moi, je rentre pas dans l'idéologie gauchiste, progressiste, etc., qui dit que tous ceux qui sont à droite, c'est l'extrême droite. Non, c'est le LR qui s'est remis vers le centre. Mais nous, les électeurs, on est toujours restés à droite, et l'extrême droite n'existe pas. Et donc,
bon, les LR, il y a toujours eu plusieurs familles, et on le sait bien,
c'est la politique politicienne, ça, Pascal.
Non, c'est pas de la politique politicienne. Le RPR de Pasqua, le RPR de Devilliers, le RPR de Seguin, le RPR de Chirac, le RPR de Nicolas Sarkozy ou de Balladur, c'était des courants à l'intérieur du RPR. C'est factuel, ce que je dis là. Mais vous, pourquoi vous pensez que c'est Valérie Pécresse qui va passer?
Parce que c'est tous des centristes, Bertrand, Jubin...
Ciotti, c'est pas un centriste.
Sauf Ciotti,
Mais là, on parle des électeurs, on parle pas des dirigeants. Que les dirigeants soient pas toujours d'accord avec leurs électeurs, je suis assez d'accord sur les Républicains. Mais là, c'est les électeurs qui vont voter.
Oui, mais quand vous voyez les pourcentages qu'ils ont eus, là, les 5, là, si vous additionnez le tout, ça va aller plus vers...
Donc ça veut dire que les électeurs sont plus centristes. Vous pouvez pas reprocher aux électeurs des Républicains de se positionner comme ça.
Oui, mais je reproche rien du tout à qui que ce soit. C'est juste que moi, l'analyse que j'en fais, c'est que au niveau des LR, c'est plus du centre. Ils sont compatibles avec Macron. C'est pas la vraie droite. Éric Ciotti, c'est la vraie droite.
Oui, mais il est aussi aujourd'hui chez les Républicains. Et il a représenté 25% du collège électoral.
Combien il y en a qui s'en vont si c'est Ciotti qui remporte? Il y en a beaucoup qui s'en vont. Il y en a déjà, celui de Nice, il est déjà parti. Enfin, il y en a plusieurs qui vont suivre.
De toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont partis déjà chez Emmanuel Macron, que ce soit Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Et,
tout à fait.
Il y a déjà eu une fuite. Donc on pourrait imaginer que ceux qui restent sont précisément ceux qui sont à droite.
Oui, peut-être. Je n'y crois pas trop.
Valérie Pécresse, par exemple, c'est une centriste.
Elle est compatible avec Emmanuel Macron, quand même.
C'est ce qu'elle dit.
Mais entre ce qu'elle se dit et après la
c'est parce qu'elle dit sur les thèmes régaliens, c'est parce qu'elle dit sur le social, c'est parce qu'elle dit sur les fonctionnaires, c'est parce qu'elle dit sur la sécurité.
Au niveau du régalien, j'ai pas l'impression. Bon, après, la vérité, j'écoutais pas trop avant, mais c'est depuis, ils se sont tous un petit peu durcis dès que Zemmour est arrivé sur le marché.
Ah, ça c'est sûr. Vous avez pas. En fait, Éric Zemmour est utilisé comme un lièvre dans cette campagne électorale. Pour Marine Le Pen et c'est peut-être ça. Pour également le candidat de droite, puisqu'il est sans doute tellement perçu comme excessif que les autres qui le sont moins sont plus tolérés. Mais ça permet aux autres d'avoir un peu de grignoter un peu sur le terrain idéologique de Zemmour, si j'ose dire.
Non, tout à fait, mais c'est pour ça que je vous dis. Et puis après, au bout du compte, on le sait quoi. On le sait. Après, on ne peut pas faire des plans sur la comète, mais. Dans la logique des choses, on verra bien, mais si, imaginons, elle n'arrive pas au deuxième tour, et qu'elle est elle arrive au premier tour des LR. Bon, c'est elle la candidate. Ils n'arrivent pas au deuxième tour de la présidentielle. Que ça soit Marine Macron ou Zemmour Macron, qu'est-ce qu'elle va dire?
Bah, je ne sais pas. D'ailleurs, Macron, la question, elle refuse de poser. C'est marrant parce que je la comprends. Il y a une question qui est taboue. Et hier, certains lui ont déjà posé. Qu'est-ce que vous faites dans un deuxième tour entre Marine Le Pen et Macron? Et elle répond, je serai au deuxième tour. Alors, c'est facile. Mais c'est une question taboue, mais elle est habile politiquement, forcément. Je serai à sa place, je ne répondrai pas non plus.
Les Français, ils en ont marre de l'habilité des politiques.
Ça, c'est pas faux.
Il faut dire ce qu'on pense.
C'est pas faux. C'est une bonne remarque.
Éric Ciotti, lui, voilà, on sait.
Ça, c'est une bonne remarque que vous dites là. Effectivement, et on pourrait imaginer qu'on soit en transparence sur son choix. Vous n'avez pas tort.
Ben, c'est ça.
Eh ben, merci Gérard.
Je vous en prie.
Vous êtes commercial, je vois, vous allez bosser cet après-midi.
Oui, ben, je suis au bureau, là. Voilà, j'ai pris ma petite pause pour vous parler.
Commercial au bureau, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Hein. Les commerciaux, dans le temps, ils étaient sur la route.
Mais on est sur la route, là. C'est entre midi et deux, je rentre au bureau. Mais après, je repars.
C'est un beau métier, commercial.
Oui, c'est sympa. Je vois du monde, c'est agréable. Et je suis dehors, donc c'est parfait. Dans le Var, en plus, on est bien dehors.
C'est un beau métier. Alors, effectivement, maintenant, les gens passent parfois leurs commandes via Internet, alors qu'avant, le commercial, il allait chercher le client.
Oui, mais nous, ça se commande pas sur Internet. Donc, c'est du matériel de TP. Donc, ça se commande pas sur Internet.
Ça, c'est bien. Donc, le facteur humain reste essentiel.
Non, c'est ça.
Merci beaucoup Gérard. Je salue Lucas Dindeleu qui à 14h20 nous donnera la chanson de Noël. Ce sera la cinquième chanson, non la quatrième parce qu'on a commencé le 1er décembre. Suspense jusque là. Je salue également Monsieur Boubou qui nous dira si Madame Mère est dans les murs. Parce que c'est quand même une information essentielle de savoir si Madame Mère est montée à Paris. À tout de suite.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.